Un soir que Melchior dînait en ville, Gottfried, resté seul dans la salle du bas, tandis que Louisa couchait les deux petits, sortit et alla s'asseoir à quelques pas de la maison, au bord du fleuve. Christophe l'y suivit par désœuvrement, et comme d'habitude, il le persécuta de ses agaceries de jeune chien, jusqu'à ce qu'il fût essoufflé et se laissa rouler sur l'herbe à ses pieds. Couché sur le ventre, il s'enfonça le nez dans le gazon. Quand il eut repris haleine, il chercha quelque nouvelle sottise à dire, et l'ayant trouvée, il la cria en se tordant de rire, la figure toujours enfouie en terre. Rien ne lui répondit. Étonné de ce silence, il leva la tête et s'apprêta à redire son bon mot. Son regard rencontra le visage de Gottfried, éclairé par les dernières lueurs du jour qui s'éteignaient dans des vapeurs dorées. Sa phrase lui resta dans la gorge. Gottfried souriait, les yeux à demi fermés, la bouche entr'ouverte, et sa figure souffreteuse était d'un sérieux indicible. Christophe, appuyé sur les coudes, se mit à l'observer. La nuit venait, la figure de Gottfried s'effaçait peu à peu. Le silence régnait. Christophe fut pris à son tour par les impressions mystérieuses qui se reflétaient sur le visage de Gottfried. La terre était dans l'ombre et le ciel était clair. Les étoiles naissaient. Les petites vagues du fleuve clapotaient sur la rive. L'enfant s'engourdissait. Il mâchait, sans les voir, de petites tiges d'herbe. Un grillon criait près de lui. Il lui semblait qu'il allait s'endormir. Brusquement, dans l'obscurité, Gottfried chanta. Il chantait d'une voix faible, voilée, comme intérieure. On aurait pu l'entendre à 20 pas, mais elle avait une sincérité émouvante. On eût dit qu'il pensait tout haut, et qu'au travers de cette musique, comme d'une eau transparente, on put lire jusqu'au fond de son cœur. Jamais Christophe n'avait entendu chanter ainsi, et jamais il n'avait entendu une pareille chanson. Lente, simple, enfantine, elle allait d'un pas grave, triste, un peu monotone, sans se presser jamais, avec de longs silences, puis se remettait en route, insoucieuse d'arriver, et se perdait dans la nuit. Elle semblait venir de très loin, et allait on ne sait où. Sa sérénité était pleine de troubles, et sous sa paix apparente dormait une angoisse séculaire. Christophe ne respirait plus, il n'osait faire un mouvement, il était tout froid d'émotion. Quand ce fut fini, il se traîna vers Gottfried, et la gorge serrée. « Oncle, » demanda-t-il. Gottfried ne répondit pas. « Oncle, » répéta l'enfant, en posant ses mains et son menton sur les genoux de Gottfried. La voix affectueuse de Gottfried dit « Mon petit, qu'est-ce que c'est, oncle ?» dit. « Qu'est-ce que tu as chanté ?»«
Je ne sais pas. »
« Dis ce que c'est. »«
Je ne sais pas. C'est une chanson. »«
C'est une chanson de toi ?»
Non, pas de moi. Quelle idée!
C'est une vieille chanson.
Qui l'a faite?
On ne sait pas.
Quand?
On ne sait pas.
Quand tu étais petit?
Avant que je fusse au monde. Avant qu'il fût mon père, et le père de mon père, et le père du père de mon père. Cela a toujours été.
Comme c'est étrange. Personne ne m'en a jamais parlé.
Il réfléchit un moment. Oncle, est-ce que tu en sais d'autres?
« Oui.
Chante une autre, veux-tu ? » ?»«
Pourquoi chanter une autre ?
Une suffit. On chante quand on a besoin de chanter, quand il faut qu'on chante. Il ne faut pas chanter pour s'amuser.
Mais pourtant, quand on fait de la musique,
ce n'est pas de la musique. »
Le petit resta pensif. Il ne comprenait pas très bien. Cependant, il ne demanda pas d'explication.
C'est vrai, ce n'était pas de la musique, de la musique comme les autres. Il reprit « Oncle, est-ce que toi, tu en fais ?
Quoi donc ?
Des chansons.
Des chansons ?
Oh, comment est-ce que j'en ferai ?
Cela ne se fait pas. »
L'enfant insistait avec sa logique habituelle. « Mais, oncle, cela a été fait pourtant une fois. »
Gottfried secouait la tête avec obstination.
« Cela a toujours été. » L'enfant revenait à la charge. « Mais, oncle, est-ce qu'on ne peut pas en faire d'autres, de nouvelles ?
Pourquoi en faire ?
Il y en a pour tout. Il y en a pour quand tu es triste et pour quand tu es gai. Pour quand tu es fatigué et que tu penses à la maison qui est loin. Pour quand tu te méprises parce que tu as été un vil pécheur, un ver de terre. Pour quand tu as envie de pleurer,
parce que les gens n'ont pas été bons avec toi. Et pour quand tu as le cœur joyeux, parce qu'il fait beau et que tu vois le ciel de Dieu, qui, lui, est toujours bon et qui a l'air de te rire. Il y en a pour tout, pour tout. Pourquoi est-ce que j'en ferai ?
Pour être un grand homme, dit le petit, tout plein des leçons de son grand-père et de ses rêves naïfs.
Gottfried eut un petit rire doux. Christophe, un peu vexé, demanda « Pourquoi ris-tu ? »
Gottfried dit « Oh, moi je ne suis rien. »
Et, caressant la tête de l'enfant, il demanda « Tu veux donc être un grand homme, toi ?»«
Oui, » répondit fièrement Christophe.
Il croyait que Gottfried allait l'admirer. Mais Gottfried répondit « Pourquoi faire ?»
Christophe fut interloqué.
Après avoir cherché, il dit
« Pour faire de belles chansons ?»
Gottfried rit de nouveau et dit « Tu veux faire des chansons pour être un grand homme, et tu veux être un grand homme pour faire des chansons. Tu es comme un chien qui tourne après sa queue. » Christophe fut très froissé. À tout autre moment, il n'eût pas supporté que son oncle, dont il avait l'habitude de se moquer, se moqua de lui à son tour. Et en même temps, il n'eût jamais pensé que Gottfried pût être assez intelligent pour l'embarrasser par un raisonnement. Il chercha un argument ou une impertinence à lui répondre, et ne trouva rien. Gottfried continuait. « Quand tu serais grand, comme d'ici à Koblenz, jamais tu ne feras une seule chanson. »
Christophe se révolta.
« Et si je veux en faire ? » ?»«
Plus tu veux, moins tu peux.
Pour en faire, il faut être comme eux. Écoute. »
La lune s'était levée, ronde et brillante, derrière les champs. Une brume d'argent flottait au ras de terre, et sur les eaux miroitantes. Les grenouilles causaient, et l'on entendait dans les prés la flûte mélodieuse des crapauds. Le trémolo aigu des crayons semblait répondre au tremblement des étoiles. Le vent froissait doucement les branches des aunes. Des collines au-dessus du fleuve descendait le chant fragile d'un rossignol.
« Qu'est-ce que Dieu a besoin de chanter ?» soupira Gottfried, après un long silence. On ne savait pas s'il se parlait à lui-même ou à Christophe. « Est-ce qu'il ne chante pas mieux que tout ce que tu pourras faire ?»
Christophe avait bien des fois entendu tous ces bruits de la nuit, mais jamais il ne les avait entendus ainsi.
C'est vrai, qu'est-ce qu'on avait besoin de chanter ?
Il se sentait le cœur gonflé de tendresse et de chagrin. Il aurait voulu embrasser les prés, le fleuve, le ciel, les chères étoiles. Et il était pénétré d'amour pour l'oncle Gottfried, qui lui semblait maintenant le meilleur, le plus intelligent, le plus beau de tous. Il pensait combien il l'avait mal jugé. Et il pensait que l'oncle était triste parce que Christophe le jugeait mal. Il était plein de remords. Il éprouvait le besoin de lui crier « Oncle, ne sois plus triste, je ne serai plus méchant. Pardonne-moi, je t'aime bien. » Mais il n'osait pas. Et tout d'un coup, il se jeta dans les bras de Gottfried. Mais sa phrase ne voulait pas sortir. Il répétait seulement « Je t'aime bien. » Et il l'embrassait passionnément.
Gottfried, surpris et ému, répétait «
Et quoi ? Et quoi ?» et il l'embrassait aussi. Puis il se leva, lui prit la main et dit « Il faut rentrer. »
Christophe revenait, triste que l'oncle n'eût pas compris. Et comme ils arrivaient à la maison, Gottfried lui dit « D'autres soirs, si tu veux, nous irons encore entendre la musique du bon Dieu et je te chanterai d'autres chansons. » Et quand Christophe l'embrassa, plein de reconnaissance, en lui disant bonsoir, il vit bien que l'oncle avait compris. Depuis lors, ils allaient souvent se promener ensemble le soir, et ils marchaient sans causer le long du fleuve ou à travers les champs. Gottfried fumait sa pipe lentement, et Christophe lui donnait la main, un peu intimidé par l'ombre. Ils s'asseyaient dans l'herbe, et après quelques instants de silence, Gottfried lui parlait des étoiles et des nuages. Il lui apprenait à distinguer les souffles de la terre et de l'air et de l'eau, les chants, les cris, les bruits du petit monde voletant, rampant, sautant ou nageant, qui grouille dans les ténèbres, et les signes précurseurs de la pluie et du beau temps, et les instruments innombrables de la symphonie de la nuit. Parfois Gottfried chantait des airs tristes ou gais, mais toujours de la même sorte, et toujours Christophe retrouvait à l'entendre le même trouble. Jamais il ne chantait plus d'une chanson par soir. Et Christophe avait remarqué qu'il ne chantait pas volontiers quand on le lui demandait. il fallait que cela lui vînt de lui-même, quand il en avait envie. On devait souvent attendre longtemps sans parler. Et c'était au moment où Christophe pensait « Voilà, il ne chantera pas ce soir », que Gottfried se décidait. Un soir que Gottfried ne chantait décidément pas, Christophe eut l'idée de lui soumettre une de ses petites compositions qui lui donnait à faire tant de peine et d'orgueil. Il voulait lui montrer quel artiste il était. Gottfried l'écouta tranquillement, puis il dit « Comme c'est laid, mon pauvre Christophe !» Christophe en fut si mortifié qu'il ne trouva rien à répondre. Gottfried reprit avec commisération « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est si laid. Personne ne t'obligeait à le faire. » Christophe protesta, rouge de colère. « Grand-père trouve ma musique très bien » cria-t-il. « Ah !» fit Gottfried sans se troubler. « Il a raison, sans doute. C'est un homme bien savant. Il se connaît en musique. Moi, je ne m'y connais pas. » Et après un moment, « Mais je trouve cela très laid. » Il regarda paisiblement Christophe, vit son visage dépité, sourit et dit « As-tu fait d'autres airs ? Peut-être j'aimerais mieux les autres que celui-ci. » Christophe pensa qu'en effet, ces autres airs effaceraient l'impression du premier, et il les chanta tous. Gottfried ne disait rien. Il attendait que ce fût fini. Puis il secoua la tête et dit avec une conviction profonde « C'est encore plus laid. » Christophe serra les lèvres, et son menton tremblait. Il avait envie de pleurer. Gottfried, comme consterné lui-même, insistait « Comme c'est laid !» Christophe, la voix pleine de larmes, s'écria « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis que c'est laid ?» Gottfried le regarda avec ses yeux honnêtes. « Pourquoi ? Je ne sais pas. Attends, c'est laid d'abord parce que c'est bête. Oui, c'est cela. C'est bête, cela ne veut rien dire. » « Voilà. Quand tu as écrit cela, tu n'avais rien à dire. Pourquoi as-tu écrit cela ?»«
Je ne sais pas, » dit Christophe d'une voix lamentable. « Je voulais écrire un joli morceau. »«
Voilà. Tu as écrit pour écrire. Tu as écrit pour être un grand musicien, pour qu'on t'admira. Tu as été orgueilleux. Tu as menti. Tu as été puni. Voilà. On est toujours puni lorsqu'on est orgueilleux et qu'on ment en musique. » La musique veut être modeste et sincère. Autrement, qu'est-ce qu'elle est ? Une impiété, un blasphème contre le Seigneur qui nous a fait présent du beau chant pour dire des choses vraies et honnêtes. Il s'aperçut du chagrin du petit et voulut l'embrasser. Mais Christophe se détourna avec colère, et plusieurs jours, il le bouda. Il haïssait Gottfried, mais il avait beau se répéter, « C'est un âne, il ne sait rien, rien !» Grand-père, qui est bien plus intelligent, trouve que ma musique est très bien. » Au fond de lui-même, il savait que c'était son oncle qui avait raison, et les paroles de Gottfried se gravaient en lui. Il avait honte d'avoir menti. Aussi, malgré sa rancune tenace, pensait-il toujours à l'oncle maintenant quand il écrivait de la musique. Et souvent, il déchirait ce qu'il avait écrit par honte de ce que Gottfried en aurait pu penser. Quand il passait outre et écrivait un air, qu'il savait ne pas être tout à fait sincère, il le lui cachait soigneusement. Il tremblait devant son jugement. Et il était tout heureux quand Gottfried disait simplement d'un de ses morceaux « Ce n'est pas trop laid. J'aime. » Parfois aussi, pour se venger, sournoisement il lui jouait le tour de lui présenter, comme sien, des airs de grands artistes. Et il était dans la jubilation quand Gottfried, par hasard, les trouvait détestables. Mais Gottfried ne se troublait pas. Il riait de bon cœur en voyant Christophe battre des mains et gambader de joie autour de lui. Et il revenait toujours à son argument ordinaire. C'est peut-être bien écrit, mais cela ne dit rien. Jamais il ne voulut assister à un des petits concerts qu'on donnait à la maison. Si beau que fût le morceau, il commençait à bâiller et prenait un air hébété d'ennui. Bientôt il n'y tenait plus et s'esquivait sans bruit. Il disait « Vois-tu, petit, tout ce que tu écris dans la maison, ce n'est pas de la musique. La musique dans la maison, c'est le soleil en chambre. La musique est dehors, quand tu respires le cher petit air du bon Dieu. » Il parlait toujours du bon Dieu, car il était très pieux, à la différence des deux Kraft, père et fils, qui faisaient les esprits forts tout en se gardant bien de manger gras le vendredi. Soudain, sans que l'on sût pourquoi, Melchior changea d'avis.
Non seulement il approuva que grand-père eût recueilli les inspirations de Christophe, mais, à la grande surprise de ce dernier, il passa plusieurs soirs à faire de son manuscrit 2 ou 3 copies. À toutes les questions qu'on lui adressait à ce sujet, il répondait d'un air important qu'on verrait. Ou bien il se frottait les mains en riant, frictionnait à tour de bras la tête du petit, par manière de plaisanterie, ou lui administrait joyeusement des claques sur les fesses. Christophe détestait ces familiarités, mais il voyait que son père était content, et il ne savait pourquoi. Il y eut entre Melchior et le grand-père des conciliabules mystérieux. Et un soir, Christophe, très étonné, apprit qu'il avait, lui, Christophe, dédié à son Altesse Sérénissime le grand-duc Léopold les plaisirs du jeune âge. Melchior avait fait pressentir les intentions du prince, qui s'était montré gracieusement disposé à accepter l'hommage. Là-dessus, Melchior, triomphant, déclara qu'il fallait, sans perdre un moment, primo, rédiger la demande officielle au prince, secondo, publier l'œuvre, tertio, organiser un concert afin de la faire entendre. Melchior et Jean-Michel eurent encore de longues conférences. Pendant 2 ou 3 soirs, ils discutèrent avec animation. Il était défendu de venir les troubler. Melchior écrivait. Le vieux parlait tout haut, comme s'il disait des vers. Parfois, il se fâchait ou tapait sur la table parce qu'il ne trouvait pas un mot. Puis, on appela Christophe, on l'installa devant la table, une plume entre les doigts, flanquée de son père à droite, à gauche de son grand-père. Et ce dernier commença à lui faire une dictée à laquelle il ne comprit rien, parce qu'il avait une peine considérable à écrire chaque mot, parce que Melchior lui criait dans l'oreille, et parce que le vieux déclamait d'un ton si emphatique que Christophe, troublé par le son des paroles, ne pensait même plus à en écouter le sens. Le vieux n'était pas moins ému. Il n'avait pu rester assis. Il se promenait à travers la chambre en mimant les expressions de son texte. Mais à tout instant, il venait regarder sur la page du petit. Et Christophe, intimidé par les 2 grosses têtes penchées sur son dos, tirait la langue, ne pouvait plus tenir sa plume, avait les yeux troubles, faisait des jambages de trop ou brouillait tout ce qu'il avait écrit. Et Melchior hurlait, et Jean-Michel tempêtait. Et il fallait recommencer et encore recommencer. Et quand on se croyait enfin arrivé au bout, sur la page irréprochable tombait un superbe pâté. Alors on lui tirait les oreilles et il fondait en larmes. Mais on lui défendait de pleurer parce qu'il tachait le papier. Et on reprenait la dictée depuis la première ligne. Et il croyait que cela durerait ainsi jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, on en vint à bout. Et Jean-Michel, adossé à la cheminée, relut l'œuvre d'une voix qui tremblait de plaisir, tandis que Melchior, renversé sur sa chaise, regardait le plafond et, hochant le menton, dégustait en fin connaisseur le style de l'épître qui suit. Hautement digne, très sublime Altesse. Depuis ma 4e année, la musique commença d'être la première de mes occupations juvéniles. Aussitôt que j'eus lié commerce avec la noble muse qui incitait mon âme à de pures harmonies, je l'aimais, et, à ce qu'il me sembla, elle me paya le retour. Maintenant, j'ai atteint le 6e de mes ans, et depuis quelque temps, ma muse, souvent fois, dans les heures d'inspiration, me chuchotait à l'oreille « Ose, ose, écris les harmonies de ton âme. » 6 années, pensais-je. Et comment oserais-je? Que diront de moi les hommes savants dans l'art? J'hésitais, je tremblais, mais ma muse le voulut. J'obéis, j'écrivis. Et maintenant, aurais-je, ô très sublime Altesse, aurais-je la téméraire audace de déposer sur les degrés de ton trône les prémices de mes jeunes travaux? Aurais-je la hardiesse d'espérer que tu laisseras tomber sur eux l'auguste approbation de ton regard paternel? Oh oui, car les sciences et les arts ont toujours trouvé en toi leur sage mécène, leur champion magnanime, et le talent fleurit sous l'égide de ta sainte protection. Plein de cette foi profonde et assurée, j'ose donc m'approcher de toi avec ces essais puérils. Reçois-les comme une pure offrande de ma vénération, et daigne avec bonté, ô très sublime Altesse, jeter les yeux sur eux et sur leur jeune auteur, qui s'incline à tes pieds dans un profond abaissement. De sa hautement digne
très sublime altesse, le parfaitement soumis, fidèlement très obéissant serviteur, Jean-Christophe Kraft. Christophe n'entendit rien. Il était trop heureux d'en être quitte, et dans la crainte qu'on ne le fît recommencer encore, il se sauva dans les champs. Il n'avait nulle idée de ce qu'il avait écrit, et il ne s'en souciait point. Mais le vieux, après avoir terminé sa lecture, la reprit encore une fois pour la mieux savourer. Et quand ce fut fini, Melchior et lui déclarèrent que c'était un maître morceau. Ce fut aussi l'avis du grand-duc, à qui la lettre fut présentée avec une copie de l'œuvre musicale. Il eut la bonté de faire dire que l'une et l'autre étaient d'un style charmant. Il autorisa le concert, ordonna de mettre à la disposition de Melchior la salle de son académie de musique et daigna promettre qu'il se ferait présenter le jeune artiste le jour de son audition. Melchior s'occupa donc d'organiser au plus vite le concert. Il s'assura le concours du Hofmusikverein, et comme le succès de ses premières démarches avait exalté ses idées de grandeur, il entreprit en même temps de faire paraître une édition magnifique des Plaisirs du jeune âge. Il eut voulu faire graver sur la couverture le portrait de Christophe au piano, avec lui-même, Melchior, debout auprès de lui, son violon à la main. Il fallut y renoncer, non à cause du prix, Melchior ne reculait devant aucune dépense, mais du manque de temps. Il se rabattit sur une composition allégorique qui représentait un berceau, une trompette, un tambour, un cheval de bois, entourant une lyre d'où jaillissaient des rayons de soleil. Le titre portait, avec une longue dédicace, où le nom du prince se détachait en caractères énormes, l'indication que M. Jean-Christophe Kraft était âgé de 6 ans. Il en avait, à vrai dire, 7 et demi. La gravure du morceau coûta fort cher. Il fallut, pour la payer, que grand-père vendit un vieux bahut du 18e siècle, avec des figures sculptées, dont il n'avait jamais voulu se défaire, malgré les offres réitérées de Wormser le brocanteur. Mais Melchior ne doutait pas que les souscriptions ne couvrissent, et au-delà, les dépenses du morceau. Une autre question le préoccupait, celle du costume que Christophe porterait le jour du concert. Il y eut à ce sujet un conseil de famille. Melchior eût souhaité que le petit pût se présenter en robe courte et les mollets nus, comme un enfant de 4 ans. Mais Christophe était très robuste pour son âge, et chacun le connaissait. On ne pouvait se flatter de faire illusion à personne. Melchior eut alors une idée triomphale. Il décida que l'enfant serait mis en frac, avec une cravate blanche. En vain, la bonne Louisa protestait qu'on voulait rendre ridicule son pauvre garçon. Melchior escomptait justement le succès de douce gaieté produite par cette apparition imprévue. Il en fut fait ainsi, et le tailleur vint prendre mesure pour l'habit du petit homme. Il fallut aussi du linge fin et des escarpins vernis, et tout cela encore coûta les yeux de la tête. Christophe était fort gêné dans ses nouveaux vêtements. Pour l'y accoutumer, on lui fit répéter plusieurs fois ses morceaux en costume. Depuis un mois, il ne quittait plus le tabouret du piano. On lui apprenait aussi à saluer. Il n'avait plus un instant de liberté. Il enrageait, mais n'osait se révolter, car il pensait qu'il allait accomplir un acte éclatant. Et il en avait orgueil et peur. On le choyait, d'ailleurs. On craignait qu'il n'eût froid. On lui serrait le cou dans des foulards. On chauffait ses chaussures, de peur qu'elles ne fussent mouillées. Et à table, il avait les meilleurs morceaux. Enfin, le grand jour arriva. Le coiffeur vint présider à la toilette et friser la chevelure rebelle de Christophe. Il ne la laissa point qu'il n'en eût fait une toison de mouton. Toute la famille défila devant Christophe et déclara qu'il était superbe. Melchior, après l'avoir dévisagé et retourné sur toutes les faces, se frappa le front et alla chercher une large fleur qu'il fixa à la boutonnière du petit. Mais Louisa, en l'apercevant, leva les bras au ciel et s'écria avec chagrin qu'il avait l'air d'un singe, ce qui le mortifia cruellement. Lui-même ne savait pas s'il devait être fier ou honteux de son accoutrement. D'instinct, il était humilié. Il le fut bien davantage au concert. Ce devait être pour lui le sentiment dominant de cette mémorable journée. Le concert allait commencer. La moitié de la salle était vide. Le grand-duc n'était pas venu. Un ami aimable et bien informé, comme il en est toujours, n'avait pas manqué d'apporter la nouvelle qu'il y avait une réunion du conseil au palais et que le grand-duc ne viendrait pas.
Il le savait de source sûre.
Melchior, atterré, s'agitait, faisait les 100 pas, se penchait à la fenêtre. Le vieux Jean-Michel se tourmentait aussi, mais c'était au sujet de son petit-fils. Il l'obsédait de recommandations. Christophe était gagné par la fièvre des siens. Il n'avait aucune inquiétude pour ses morceaux, mais la pensée des saluts qu'il devait faire au public le troublait, et à force d'y songer, cela devenait une angoisse. Cependant, il fallait commencer. Le public s'impatientait. L'orchestre du Hofmusikverein entama l'ouverture de Coriolan. L'enfant ne connaissait ni Coriolan ni Beethoven, car s'il avait souvent entendu des pages de celui-ci, c'était sans le savoir. Jamais il ne s'inquiétait du nom des œuvres qu'il entendait. Il les appelait des noms de son invention, forgeant à leur sujet de petites histoires ou de petits paysages. Il les classait d'ordinaire en 3 catégories, le feu, la terre et l'eau, avec 1000 nuances diverses. Mozart appartenait à l'eau. Il était une prairie au bord d'une rivière, une brume transparente qui flotte sur le fleuve, une petite pluie de printemps, ou bien un arc-en-ciel. Beethoven était le feu, tantôt un brasier aux flammes gigantesques et aux fumées énormes, tantôt une forêt incendiée, une nuée lourde et terrible, d'où la foudre jaillit, tantôt un grand ciel plein de lumière palpitante, d'où l'on voit avec un battement de cœur une étoile qui se détache, glisse et meurt doucement par une belle nuit de septembre. Cette fois encore, les ardeurs impérieuses de cette âme héroïque le brûlèrent. Il fut saisi par le torrent de flammes. Tout le reste disparut. Que lui faisait tout le reste? Melchior consterné, Jean-Michel angoissé, tout ce monde affairé, le public, le grand-duc, le petit Christophe, qu'avait-il à faire de ces gens? Il était dans cette volonté furieuse qui l'emportait. Il la suivait, haletant, les larmes aux yeux, les jambes engourdies, crispées de la paume des mains à la plante des pieds. Son sang battait la charge, et il tremblait. Et tandis qu'il écoutait ainsi, l'oreille tendue, cachée derrière un portant, il eut un heurt violent au cœur. L'orchestre s'était arrêté net au milieu d'une mesure. Et, après un instant de silence, il entonna à grand fracas de cuivre et de timbales un air militaire d'une emphase officielle. Le passage d'une musique à l'autre était si brutal que Christophe en grinça des dents et tapa du pied avec colère, montrant le poing au mur. Mais Melchior exultait. C'était le prince qui entrait et que l'orchestre saluait de l'hymne national. Et Jean-Michel faisait d'une voix tremblante ses dernières recommandations à son petit-fils. L'ouverture recommença et finit cette fois. C'était au tour de Christophe. Melchior avait ingénieusement combiné le programme de manière à mettre en valeur à la fois la virtuosité du fils et celle du père. Ils devaient jouer ensemble une sonate de Mozart pour piano et violon. Afin de graduer les effets, il avait été décidé que Christophe entrerait seul d'abord. On le mena à l'entrée de la scène, on lui montra le piano sur le devant de l'estrade, on lui expliqua une dernière fois tout ce qu'il avait à faire, et on le poussa hors des coulisses. Il n'avait pas trop peur, étant depuis longtemps habitué aux salles de théâtre. Mais quand il se trouva seul sur l'estrade, en présence de centaines d'yeux, il fut brusquement si intimidé qu'il eut un mouvement instinctif de recul. Il se retourna même vers la coulisse pour y rentrer. Il aperçut son père qui lui faisait des gestes et des yeux furibonds. Il fallait continuer. D'ailleurs, on l'avait aperçu dans la salle. À mesure qu'il avançait, montait un brouhaha de curiosité, bientôt suivi de rires, qui gagnèrent de proche en proche. Melchior ne s'était pas trompé, et l'accoutrement du petit produisit tout l'effet qu'on en pouvait attendre. La salle s'esclaffait à l'apparition du bambin aux longs cheveux, au teint de petite cigane, trottinant avec timidité dans le costume de soirée d'un gentleman correct. On se levait pour mieux le voir. Ce fut bientôt une hilarité générale qui n'avait rien de malveillant, mais qui eût fait perdre la tête au virtuose le plus résolu. Christophe, terrifié par le bruit, les regards, les lorgnettes braquées, n'eut plus qu'une idée, arriver au plus vite au piano, qui lui apparaissait comme un îlot au milieu de la mer. Tête baissée, sans regarder ni à droite ni à gauche, il défila au pas accéléré le long de la rampe, et arrivé au milieu de la scène, au lieu de saluer le public, comme c'était convenu, il lui tourna le dos et fonça droit sur le piano.
La chaise était trop élevée pour qu'il pût s'y asseoir sans le secours de son père. Au lieu d'attendre, dans son trouble, il la gravit sur les genoux. Cela ajouta à la gaieté de la salle. Mais maintenant, Christophe était sauvé. En face de son instrument, il ne craignait personne. Melchior arriva enfin. Il bénéficia de la bonne humeur du public, qui l'accueillit par des applaudissements assez chauds. La sonate commença. Le petit homme la joua avec une sûreté imperturbable, la bouche serrée d'attention, les yeux fixés sur les touches, ses petites jambes pendantes le long de la chaise. À mesure que les notes se déroulaient, il se sentait plus à l'aise. Il était comme au milieu d'amis qu'il connaissait. Un murmure d'approbation arrivait jusqu'à lui. Il lui montait à la tête des bouffées de satisfaction orgueilleuse, en pensant que tout ce monde se taisait pour l'entendre et l'admirait. Mais à peine eut-il fini que la peur le reprit, et les acclamations qui le saluèrent lui firent plus de honte que de plaisir. Cette honte redoubla quand Melchior, le prenant par la main, s'avança avec lui sur le bord de la rampe et lui fit saluer le public. Il obéit et salua très bas, avec une gaucherie amusante. Mais il était humilié, il rougissait de ce qu'il faisait comme d'une chose ridicule et vilaine. On le rassit devant le piano, et il joua seul les plaisirs du jeune âge. Ce fut alors du délire. Après chaque morceau, on se récriait d'enthousiasme. On voulait qu'il recommençât. Et il était fier d'avoir du succès, et presque blessé en même temps par ses approbations qui étaient des ordres. À la fin, toute la salle se leva pour l'acclamer. Le grand-duc donnait le signal des applaudissements. Mais comme Christophe était seul cette fois sur la scène, il n'osait plus bouger de sa chaise. Les acclamations redoublaient. Il baissait la tête de plus en plus, tout rouge et l'air penaud. Et il regardait obstinément du côté opposé à la salle. Melchior vint le prendre. Il le porta dans ses bras et lui fit envoyer des baisers. Il lui indiquait la loge du grand-duc. Christophe fit la sourde oreille. Melchior lui prit le bras et le menaça à voix basse. Alors il exécuta des gestes passivement. Mais il ne regardait personne. Il ne levait pas les yeux. Il continuait de détourner la tête, et il était malheureux. Il souffrait, il ne savait pas de quoi. Il souffrait dans son amour-propre. Il n'aimait pas du tout les gens qui étaient là. Ils avaient beau l'applaudir, il ne leur pardonnait pas de rire et de s'amuser de son humiliation. Il ne leur pardonnait pas de le voir dans cette posture ridicule, suspendu en l'air et envoyant des baisers. Il leur en voulait presque de l'applaudir. Et quand Melchior enfin le posa à terre, il détala vers la coulisse. Une dame lui lança au passage un petit bouquet de violettes qui lui frôla le visage. Il fut pris de panique et courut à toutes jambes, renversant une chaise qui se trouvait sur son chemin. Plus il courait, plus on riait. Et plus on riait, plus il courait. Enfin, il arriva à la sortie de la scène, encombré par les gens qui regardaient, se frayant un passage au travers, à coups de tête, et courut se cacher tout au fond. Grand-père exultait et le couvrait de bénédictions. Les musiciens de l'orchestre éclataient de rire et félicitaient le petit qui refusait de les regarder et de leur donner la main. Melchior, l'oreille aux aguets, évaluait les acclamations qui ne s'arrêtaient point et voulait ramener Christophe sur la scène. Mais l'enfant refusa avec rage, s'accrochant à la redingote de son grand-père et lançant des coups de pied à tous ceux qui l'approchaient. Il finit par avoir une crise de larmes et on dut le laisser. Juste à ce moment, un officier venait dire que le grand-duc demandait les artistes dans sa loge. Comment montrer l'enfant dans un état pareil? Melchior sacrait de colère, et son emportement ne faisait que redoubler les pleurs de Christophe. Pour mettre fin au déluge, grand-père promit une livre de chocolat si Christophe se taisait. Et Christophe, qui était gourmand, s'arrêta net, ravala ses larmes et se laissa emporter. Mais il fallut lui jurer d'abord, de la façon la plus solennelle, qu'on ne le mènerait pas par surprise sur la scène. Dans le salon de la loge princière, il fut mis en présence d'un monsieur en veston, à figure de Dauguin avec des moustaches hérissées, une barbe courte et pointue, petit, rouge, un peu obèse, qui l'apostropha avec une familiarité goguenarde, lui tapa les joues avec ses mains grasses, et l'appela Mozart Redivivus. C'était le grand-duc. Ensuite, il passa par les mains de la grande duchesse, de sa fille et de leur suite. Mais comme il n'osait pas lever les yeux, le seul souvenir qu'il garda de cette brillante assistance fut celui d'une collection de robes et d'uniformes vus de la ceinture aux pieds. Assis sur les genoux de la jeune princesse, il n'osait ni remuer, ni souffler. Elle lui posait des questions auxquelles Melchior répondait d'une voix obséquieuse, avec des formules d'un respect aplati. Mais elle n'écoutait pas Melchior et taquinait le petit. Il se sentait rougir de plus en plus. Et pensant que chacun remarquait sa rougeur, il voulut l'expliquer, et dit avec un gros soupir « Je suis rouge, j'ai chaud !» ce qui fit pousser des éclats de rire à la jeune fille. Mais Christophe ne lui en voulut pas, comme il en voulait au public de tout à l'heure, car ce rire était agréable, et elle l'embrassa, ce qui ne lui déplut point. À ce moment, il aperçut dans le corridor, à l'entrée de la loge, grand-père, rayonnant et honteux, qui aurait bien voulu se montrer et dire aussi son mot, mais qui n'osait parce qu'on ne lui avait pas adressé la parole. Il jouissait de loin de la gloire de son petit-fils. Christophe eut un élan de tendresse, un besoin irrésistible qu'on rendît aussi justice au pauvre vieux, qu'on sût ce qu'il valait. Sa langue se délia, il se haussa à l'oreille de sa nouvelle amie et lui chuchota « Je vais vous dire un secret ». Elle rit et demanda « Lequel ?»« Vous savez, continua-t-il, le joli trio qu'il y a dans mon minuetto, le minuetto que j'ai joué. Vous savez bien ?» Il le chantonna tout bas. « Eh bien, c'est grand-père qui l'a fait, ce n'est pas moi. Tous les autres airs sont de moi, mais celui-là, il est le plus joli. Il est de grand-père. Grand-père ne veut pas qu'on le dise. Vous ne le répéterez pas. » Et montrant le vieux, « Voilà grand-père, je l'aime bien, il est très bon pour moi. » Là-dessus, la jeune princesse rit de plus belle, cria qu'il était un mignon, le couvrit de baisers, et à la consternation de Christophe et de grand-père, elle raconta la chose à tous. Tous s'associèrent à son rire. Et le grand-duc félicita le vieux, tout confus, qui essayait vainement de s'expliquer et balbutiait comme un coupable. Mais Christophe ne dit plus un mot à la jeune fille. Malgré ses agaceries, il resta muet et raide. Il la méprisait pour avoir manqué à sa parole. L'idée qu'il se faisait des princes subit une profonde atteinte du fait de cette déloyauté. Il était si indigné qu'il n'entendit plus rien de ce que l'on disait, ni que le prince le nommait, en riant, son pianiste ordinaire, son Hofmusikus. Il sortit avec les chiens, et il se trouva entouré dans les couloirs du théâtre, et jusque dans la rue, de gens qui le complimentaient ou qui l'embrassaient, à son grand mécontentement, car il n'aimait pas à être embrassé, et il n'admettait point qu'on disposât de lui sans lui demander la permission. Enfin, ils arrivèrent à la maison, où la porte à peine fermée, Melchior commença par l'appeler « petit idiot » parce qu'il avait raconté que le trio n'était pas de lui. Comme l'enfant se rendait très bien compte qu'il avait fait là une belle action, qui méritait des éloges et non des reproches, il se révolta et dit des impertinences. Melchior se fâcha et dit qu'il le caloterait, si ces morceaux n'avaient pas été joués assez proprement, mais qu'avec son imbécilité, tout l'effet du concert était manqué. Christophe avait un profond sentiment de la justice. Il alla bouder dans un coin. Il associait dans son mépris son père, la princesse, le monde entier. Il fut blessé aussi de ce que les voisins venaient féliciter ses parents et rire avec eux, comme si c'était ses parents qui avaient joué les morceaux et comme s'il était leur chose à tous. Sur ces entrefaites, un domestique de la cour apporta de la part du grand-duc une belle montre en or et de la part de la jeune princesse une boîte d'excellents bonbons. L'un et l'autre cadeau faisaient grand plaisir à Christophe. Il ne savait trop lequel lui en faisait le plus. Mais il était de si méchante humeur qu'il n'en voulait pas convenir, et il continuait de bouder, louchant vers les bonbons et se demandant s'il conviendrait d'accepter les dons d'une personne qui avait trahi sa confiance. Comme il était sur le point de céder, son père voulut qu'il se mît sur le champ à la table de travail et qu'il écrivît sous sa dictée une lettre de remerciement. C'était trop à la fin. Soit énervement de la journée, soit honte instinctive de commencer sa lettre, comme le voulait Melchior par ces mots, « Le petit valet et musicien, Knecht und Musicus de votre Altesse », il fondit en larmes et l'on n'en put rien tirer. Le domestique attendait goguenard. Melchior dut écrire la lettre. Cela ne le rendit pas plus indulgent pour Christophe. Pour comble de malheur, l'enfant laissa tomber sa montre qui se brisa. Une grêle d'injures s'abattit sur lui. Melchior cria qu'il serait privé de dessert. Christophe dit rageusement que c'était ce qu'il voulait. Pour le punir, Louisa annonça qu'elle commençait par lui confisquer ses bonbons. Christophe, exaspéré, dit qu'elle n'en avait pas le droit, que le sac était à lui, et à personne d'autre. Personne ne le prendrait. Il reçut une gifle, eut un accès de fureur, et, arrachant le sac des mains de sa mère, il le jeta par terre en trépignant dessus. Il fut fouetté, emporté dans sa chambre, déshabillé et mis au lit. Le soir, il entendit ses parents manger avec des amis le dîner magnifique préparé depuis 8 jours en l'honneur du concert. Il faillit mourir de rage sur son oreiller d'une telle injustice. Les autres riaient très haut et choquaient leurs verres. On avait dit aux invités que le petit était fatigué. Nul ne s'inquiéta de lui. Seulement, après dîner, alors que les convives allaient se séparer, un pas traînant se glissa dans sa chambre, et le vieux Jean-Michel se pencha sur son lit, l'embrassa avec émotion en lui disant « Mon bon petit Christophe ». Puis, comme s'il avait honte, il s'esquiva, sans rien dire de plus, après lui avoir glissé quelques friandises qu'il cachait dans sa poche. Cela fut doux à Christophe, mais il était si las de toutes les émotions de la journée qu'il n'eut même pas la force de toucher aux bonnes choses que grand-père lui avait données. Il était brisé de fatigue et s'endormit presque aussitôt. Son sommeil était saccadé. Il avait de brusques détentes nerveuses comme des décharges électriques qui lui secouaient le corps. Une musique sauvage le poursuivait en rêve. Dans la nuit, il s'éveilla. L'ouverture de Beethoven, entendue au concert, grondait à son oreille. Elle remplissait la chambre de son souffle haletant. Il se souleva sur son lit et se frotta les yeux, se demandant s'il dormait. Non, il ne dormait pas. Il la reconnaissait. Il reconnaissait ses hurlements de colère, ses aboiements enragés. Il entendait les battements de ce cœur forcené qui saute dans la poitrine, ce sang tumultueux. Il sentait sur sa face ces coups de vent frénétiques qui cinglent et qui broient, et qui s'arrêtent soudain, brisés par une volonté d'Hercule. Cette âme gigantesque entrait en lui, distendait ses membres et son âme, et leur donnait des proportions colossales. Il marchait sur le monde, il était une montagne, des orages soufflaient en lui, des orages de fureur, des orages de douleur. Ah, quelle douleur! Mais cela ne faisait rien. Il se sentait si fort. Souffrir, souffrir encore. Ah, que c'est bon d'être fort! Que c'est bon le souffrir quand on est fort! Il rit. Son rire résonna dans le silence de la nuit. Son père se réveilla et cria « Qui est là ?» La mère chuchota « Chut, c'est l'enfant qui rêve !» Ils se turent tous trois. Tout se tut autour d'eux. La musique disparut, et l'on n'entendit plus que le souffle égal des êtres endormis dans la chambre, compagnons de misère, attachés côte à côte sur la barque fragile qu'une force vertigineuse emporte dans la nuit.